Bonjour. Les ministres de la Défense de l'OTAN se réunissent aujourd'hui et demain, un moment critique pour notre sécurité. Ces dernières semaines, nous avons vu l'escalade la plus grave de cette guerre depuis l'invasion en février. La Russie est en train de mobiliser des dizaines de milliers de troupes supplémentaires. Les Russes essayent d'annexer illégalement de nouveaux territoires ukrainiens et nous avons eu des frappes indiscriminées visant des villes ukrainiennes. Et nous avons aussi entendu les menaces quant au recours aux armes nucléaires venant de Moscou. Donc tout cela signifie qu'il s'agit de l'escalade la plus grave de la guerre depuis février. Aujourd'hui, nous nous réunissons avec le ministre de la Défense ukrainien, M. Resnikov, et le message de la part des pays membres de l'OTAN, c'est que nous allons continuer fermement de soutenir l'Ukraine, que nous sommes prêts à les soutenir à long terme, tant que cela est nécessaire. Il va y avoir une réunion avec le ministre Resnikov dans le cadre du groupe consultatif sur la défense de l'Ukraine et avec le dîner des ministres de la Défense ce soir. Nous allons voir comment nous pouvons augmenter notre soutien pour l'Ukraine et notre priorité sera davantage de défense aérienne pour l'Ukraine. Nous allons aussi aborder notre dissuasion et défense et comment restituer nos stocks car les alliés ont fourni un soutien à l'Ukraine en réduisant les stocks de l'OTAN en munitions et en armes. C'est ce que nous devions faire, mais maintenant nous devons voir comment nous pouvons reconstituer ces stocks. Et je m'attends donc à ce que les ministres acceptent de revoir nos directives en matière de stocks et de dialoguer davantage avec les industriels. L'OTAN est une plateforme unique. Nous avons le processus des plans de défense de l'OTAN, les objectifs capacitaires, le travail sur la normalisation, sur l'interopérabilité. Ce sont des choses uniques à l'OTAN qui permettent à l'OTAN de dialoguer avec les industriels pour que les industriels répondent à nos exigences à plus long terme et qu'ils investissent davantage dans leur capacité de production pour qu'on puisse produire plus d'armes, plus de munitions, davantage de capacités dont on a besoin pour veiller à notre propre dissuasion et défense, mais aussi pour continuer de soutenir l'Ukraine. La résilience sera aussi abordée, la résilience des infrastructures essentielles. L'importance de cela a été démontrée avec le sabotage des gazoducs en mer du Nord. Et nous allons aussi avoir une séance où nous allons parler de nos missions et opérations de l'Irak au Kosovo. Et il y aura aussi une réunion du groupe des plans nucléaires de l'OTAN. Il s'agit d'une réunion prévue de longue date, habituelle, où nous allons voir comment nous pouvons continuer de veiller à ce que la dissuasion de l'OTAN reste sûre, sécurisée et efficace. Merci.
Quelle est la réponse de l'OTAN ? Quelles seraient les réponses de l'OTAN en cas d'une frappe nucléaire de la Russie, où qu'elle soit ? Nous sommes une alliance défensive. Nous visons à éviter tout conflit et toute guerre. Donc, nous avons renforcé notre dissuasion pour envoyer un message très clair à la Russie que nous sommes là pour protéger, défendre tous les alliés. Alors, nous avons vu les spéculations sur l'utilisation d'armes nucléaires à basse charge en Ukraine. Et c'est vrai que cela aura des conséquences très, très graves pour la Russie. La Russie sait très bien qu'une guerre nucléaire ne saurait être gagnée, donc on ne doit jamais la déclencher. Et nous suivons de très près la posture nucléaire russe. Nous n'avons pas vu de changement dans la posture nucléaire de la Russie, mais nous restons très vigilants et nous allons continuer de suivre cela de très près. Parce que les menaces nucléaires, la rhétorique et les menaces voilées provenant de la Russie sont des propos très dangereux. Bonjour. Il y a encore un petit nombre de pays qui ne sont pas arrivés à l'objectif des 2% d'il y a 8 ans, qui n'ont pas présenté de plan pour y arriver. Quel message voulez-vous leur faire passer Et est-ce que cette différence des dépenses pour les matériaux militaires affecte la solidarité au sein de l'Alliance? Eh bien, nous saluons le fait que depuis 2014, tous les alliés ont augmenté leurs dépenses de défense. Et le monde est plus dangereux à l'heure actuelle, donc il faut investir dans notre sécurité. Et c'est exactement ce que font les alliés. Depuis 2014, les alliés ont ajouté plus de 350 milliards de dollars supplémentaires pour la défense en Europe et également en Amérique du Nord. De plus en plus d'alliés répondent à cette exigence des 2%. Nous allons continuer d'avancer vers ce seuil des 2% pour les alliés qui n'y sont pas encore, ou qui n'ont pas encore de plan pour répondre à ces objectifs.
Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et qui fait que les pays membres sont prêts à fournir de la défense aérienne à l'Ukraine? Je salue le fait que les alliés de l'OTAN fournissent des systèmes de défense aérienne. Cela est extrêmement important et je salue aussi l'annonce récente faite par l'Allemagne et la livraison de systèmes de défense aérienne allemands en Ukraine. Nous avons tous vu pourquoi ces moyens sont importants. Les attaques indiscriminées, terribles, visant les villes ukrainiennes, les civils, les infrastructures essentielles et aussi qui visent les systèmes énergétiques, les infrastructures énergétiques sont extrêmement graves, surtout avec l'hiver qui approche. Cela démontre le besoin urgent d'avoir plus de défense aérienne en Ukraine. Les alliés ont déjà fourni des moyens de défense aérienne, mais nous en avons besoin d'encore plus, de différents systèmes de courte portée, de longue portée, pour éliminer les missiles balistiques, les missiles de croisière, les drones aussi, donc pour réaliser des tâches différentes. L'Ukraine est aussi un grand pays avec de nombreuses villes et nous devons donc renforcer ce soutien pour que l'Ukraine puisse défendre plus de villes, plus de territoires face à ces attaques visant les populations civiles.
Selon l'OTAN, quel est le rôle du régime de Loukachenko, des alliés de Vladimir Poutine dans cette guerre? Eh bien, je pense que le régime de Loukachenko n'est plus complice. La Biélorussie a été utilisée comme zone d'où ont été lancés des missiles et d'autres attaques. Je crois que Loukachenko doit arrêter d'aider à soutenir les efforts de guerre russes.
Qu'en est-il de la situation dans les Balkans occidentaux et l'impact de la guerre en Ukraine? Les Balkans occidentaux sont importants pour l'OTAN. Nous avons une histoire là-bas. Nous y avons été pendant très longtemps. Nous avons contribué à la fin des deux guerres brutales, à la fin des années 90. La mission de la KFOR au Kosovo contribue à la stabilité, à la liberté de mouvement de toutes les communautés au Kosovo. Nous avons notre quartier général à Sarajevo et nous travaillons de très près aussi avec l'Union européenne. Les troupes OTAN au Kosovo soutiennent les efforts diplomatiques de l'Union européenne et le dialogue Belgrade-Pristina. Et nous travaillons aussi avec l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine. Et nous avons aussi des membres dans les Balkans occidentaux. Les deux membres les plus récents de l'Alliance sont des pays qui se trouvent dans les Balkans occidentaux, la Macédoine du Nord et le Monténégro. Les Balkans occidentaux sont une région importante pour l'OTAN et c'est pour cette raison-là que nous continuons de mettre l'accent sur cette région.
Merci beaucoup.